Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Michel Lévy-Taïeb, journaliste passionné de théâtre. Bonsoir Michel.
Bonsoir Sandrine.
C'est un plaisir de vous recevoir ici. Et puis, tout d'abord, bonne fête de Tishri. Bonne fête de Shana Tova.
Vous aussi, à toute l'équipe de Radio Shalom.
Merci beaucoup. Alors cette semaine, nous ouvrons notre micro au théâtre à l'occasion d'une rentrée particulièrement riche en création. On va dire quelques mots de votre parcours. On se connaît depuis Actualité Juive. Vous êtes journaliste passionné de théâtre. ActuJ, chaque semaine ou presque, il y a une chronique théâtrale et c'est vous qui la signez.
Et depuis 32 ans, Sandrine.
32 ans, oh là là, les années passent. Qu'est-ce qui vous a amené à cette rubrique ?
Ah ben moi je faisais déjà, enfin c'est une radio concurrente mais on peut en parler,
Bien sûr.
Déjà une émission en coup de théâtre à Radio J, où j'ai passé 4 ans du temps de M. Alzenberg, dans les années 90 à peu près, et je suis une passionnée de théâtre effectivement, comme on dirait, je suis tombée dedans quand j'étais petite, et avec ma sœur au Maroc, on se rappelle encore qu'on jouait des pièces de théâtre, on faisait payer un dirham à nos familles et on leur jouait, je me rappelle, la cantatrice chaude de Ionesco, c'est pas rien.
C'était où au Maroc ?
À Fès et après à Rabat. On avait 12-13 ans et j'ai de la famille qui sont... C'est une famille qui est très portée sur la littérature, des profs, des directeurs d'école de l'Alliance, enfin... Il y a tout un contexte, si vous voulez, et depuis, j'ai fait moi-même du théâtre, de l'improvisation, j'ai travaillé avec Oscar Castro, et puis bon, bah, quand la radio est venue, j'ai fait de la radio, et maintenant de la presse écrite, et je me régale.
Alors, et vous suivez toujours cette scène dramatique française avec beaucoup d'attention, et puis cette rentrée théâtrale, on le sait grâce à vous, elle est marquée par des créations qui résonnent avec des thématiques juives, mémoire de la Shoah, transmission, exil, mais aussi vie quotidienne et questionnement identitaire. Avant de passer aux pièces en particulier qui feront cette rentrée, est-ce que vous pouvez nous dire si, dans le contexte actuel, les pièces de théâtre avec ces thématiques liées au judaïsme, à la mémoire ou à Israël sont fréquentes et peuvent se jouer facilement
Absolument.
En France ?
Absolument. Alors, quand vous parliez de création, effectivement, il y a quelques créations, il y a beaucoup de reprises, je vous dirai après lesquelles, vu le succès qu'il y a eu il y a un an, il y a deux ans, il y a même 10 ans. Donc, c'est des pièces qui se rejouent avec une autre distribution, une autre participation de comédiens et ça fait vraiment notamment que pour parler sur la pièce on ne jouait pas la pétanque au ghetto de Varsovie, c'est salle comble avec standing ovation, applaudissements et le public je ne vais pas décompter qui est juif, qui n'est pas juif, c'est un public français lambda. C'est étonnant et ça fait très plaisir en fait de voir que pour le moment, en tout cas j'espère, le théâtre ne souffre pas de ces situations dramatiques.
Alors vous nous l'avez dit, ça fait plusieurs décennies que vous suivez en France cette actualité théâtrale. Est-ce qu'il y a une spécificité française ?
Oui, beaucoup sur la collaboration. Je me rends compte, à un moment, je disais, je fais des pièces sur la Shoah. Il y en a aussi, effectivement, mais dans ce que je vous proposais, là, il y a déjà 3 pièces. C'était vraiment sur la collaboration, la Deuxième Guerre mondiale, l'exil, tous ces thèmes-là, et la transmission, les traumatismes des survivants de la Shoah. Donc, c'est vraiment une thématique qu'on retrouve, et c'est l'éternelle question, qu'est-ce qu'un théâtre juif ? Est-ce que c'est le thème ? Est-ce que c'est l'auteur, le comédien, le metteur en scène ?
Est-ce que vous avez la réponse, ou c'est tout ça à la fois ?
Non, c'est tout ça à la fois, et c'est pas forcément des comédiens juifs, hein, qui jouent, bien sûr, mais par contre, des auteurs qui sont connus, reconnus sur la place théâtrale, et c'est des auteurs qui parlent beaucoup de cette période-là, donc de la Seconde Guerre mondiale.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom, on a envie de se changer les idées, d'assister à ces pièces, et on va d'abord parler de ces pièces qui abordent la question de la mémoire. Alors, vous avez parlé de « On ne jouait pas la pétanque au ghetto de Varsovie », d'Eric Feldman, qui se joue au Théâtre du Petit Saint-Martin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, c'est étonnant. C'est fantastique. C'est étonnant que ça marche très fort. C'est une pièce qui a déjà été jouée au Théâtre du Rond-Point, qui est affiché complet. Et maintenant, ils affichent aussi complet au Théâtre de la Petit Saint-Martin. Eric Feldman, c'est un comédien, c'est l'auteur donc de cette pièce au titre étrange. Il nous entraîne un peu dans une autofiction, dans lequel il s'inspire de son expérience de vie liée à la transmission donc, du traumatisme de la Shoah et des descendants. Alors, c'est pas triste, hein, c'est un titre qui est vraiment étonnant. Donc, il est seul sur scène. Un journaliste avait même dit que c'est un stand-up assis, parce qu'il est vraiment assis, il ne bouge presque pas. Et il est habité par une dizaine de personnages, dont une série d'oncles, lui, raconte un peu sa vie familiale, des personnages emblématiques du siècle, avec une grande question qui est obsédante, qu'est-ce qui serait passé si Freud avait été le psy d'Hitler ? Déjà, tout un programme. Donc on est dans un tourbillon de pensées, de rires, de souvenirs. Ça parle de la psychanalyse, de la poésie, de la Bible, d'Isaac Bashevis-Singer, du suicide, même de Miloš, son chat. Donc c'est vrai, on est vraiment dans un tourbillon. Il faut vraiment suivre, mais il est vraiment c'est vraiment haletant. Et il a un sens du tragicomique lié à la dérision du langage et c'est porté vraiment par une écriture très très travaillée, très ciselée. Et des digressions permanentes entre des vits, donc il raconte beaucoup d'histoires des vits. Peut-être que tu peux traduire, vous pouvez traduire.
C'est difficile à traduire, oui, en fait, oui. C'est des clins d'œil, des clins notes d'humour, oui. des formules en yiddish.
Voilà,
oui.
C'est ça, et puis des citations célèbres, donc on est tenu en haleine tout le long du spectacle. Et cet enfant d'une famille brisée, puisque c'est sa propre famille, il souhaite justement que sa vérité dépasse sa propre histoire, car elle nous concerne tous, d'où le succès vraiment grandissant de cette pièce. Je vais juste vous citer ce que dit le metteur en scène. Non, c'est lui-même qui dit « J'espère que ce spectacle n'est pas déprimant, même si la déprime a du bon. J'essaye d'être drôle autant qu'il puisse l'être dans un tel sujet. » Si j'arrive d'être un peu drôle, je crois que c'est directement lié au fond dépressif qui ne m'a jamais quitté. Dépression et humour font souvent bon ménage.
Surtout voilà. Chez les Ashkénazes.
Voilà, tout à fait.
Est-ce que dans cette actualité théâtrale, il y a d'autres pièces qui concernent la collaboration, oui. La Shoah ?
Tout à fait, oui, tout à fait. Là, vous l'avez dit, ça se joue au Théâtre du Petit Saint-Martin, hein, dans le 10e, rue René-Boulanger.
Et actuellement, donc actuellement, on peut...
Oui, ça a repris il y a une semaine.
D'accord, hein, donc toutes vraiment... les pièces dont vous allez parler se jouent en ce moment.
Oui, oui, bien
d'accord.
Sûr,
pas où. Alors, par exemple, pièces. Le Marchand d'étoiles,
oui,
au Théâtre du Splendide, est-ce que ça évoque cette période ?
Tout à fait. C'est une reprise, hein. C'est un grand succès. Il a eu le prix du meilleur auteur contemporain au Festival d'Avignon en 2023. Et cette pièce, elle se présente comme un formidable réquisitoire contre l'oubli et pour la mémoire. Et ça parle d'une famille de Français lambda, comme on dit, la famille Martineau, qui travaille dans un dépôt de tissus où c'est eux qui fournissent le tissu jaune pour faire les étoiles jaunes. Donc déjà, c'est bien campé. Et donc c'est la famille, le père, la mère, la fille, et puis deux salariés, dont un est juif et moitié breton, moitié juif. Et l'ancien, donc salarié, qui fréquente un homme qui est vraiment, comment dire, collaborationniste, odieux, antisémite, manipulateur, vraiment. Donc il le fréquente et cet homme vient rendre visite un soir d'inventaire à la famille et il leur dit on est entre amis et se joue alors un jeu terrible entre cette famille qui demande rien, qui ne veut rien, qui vit son petit bonhomme de chemin en faisant un peu de marché noir, un peu comme tout le monde. Et il y a ils sont embrigués dans une histoire terrible où ils n'ont pas trop le choix de collaborer, entre guillemets, avec cet homme qui s'appelle Marcel. Donc l'auteur, ce qui est bien dans cette pièce, c'est qu'il n'y condamne ni juge, il pose des réalités dans un récit. On est vraiment, c'est vraiment très haletant parce qu'on ça souffre du chaud et du froid et on frémit à chaque instant. Et il y a aussi de l'humour dans cette famille où la jeune fille tombe amoureuse. Enfin bon, après il y a des histoires de famille. Donc là, c'est vraiment cette époque-là. Donc c'est 42, hein, je crois que c'est ça, oui, hein, 42. Et c'est une comédie qui tourne au drame et elle dépasse un peu la sphère intime de la famille où la petite histoire rentre dans la grande. Et il y a son lot de cruauté, de trahison, mais aussi de solidarité. Donc on est vraiment on vibre un peu sur les deux tonalités. Donc en même temps, beaucoup de solidarité, d'affection dans cette famille. Et puis cet homme-là qui vient vraiment les... les chercher et essayer de travailler avec eux, de leur faire faire des choses de contrebande, de les menacer de menaces tout en étant amis. Enfin, toute la pièce, on est entre amis, on est entre amis. Donc, c'est terrible. Donc, elle a eu beaucoup de succès. Elle se rejoue au même théâtre, au Théâtre du Splendide. En ce moment-là, depuis la semaine dernière.
Est-ce que toutes les pièces que vous chroniquez dans l'actualité juive ou dont vous parlez, vous les avez vues en général?
Toujours.
Oui.
Toujours. Pour vous dire un petit secret, je travaille avec des attachés de presse. Donc, c'est un long travail que j'ai entrepris depuis 30 ans, depuis que j'étais à Radio J. Donc, on se connaît bien, on s'estime. Ils nous envoient les dossiers de presse, je ne les lis jamais. Je les lis après. Mais sinon, après, on est. Des fois, on est tenté de faire des remakes ou quoi. Donc, je ne les lis jamais. J'écris mon papier. Et après, je vois un petit peu ce qui se dit au niveau des comédiens, de l'auteur, de tout ça. Mais oui, je les vois toutes, hein, Sandrine.
Donc, c'est un vrai avis que vous nous donnez. Nous avons la chance de vous avoir aujourd'hui. Est-ce que le repas des fauves, qui se joue au Théâtre Héberteau, traite aussi de cette thématique?
Tout à fait. C'est vraiment aussi... Alors, c'est un texte écrit par un Vahe Kachtat. C'est un écrivain journaliste d'origine arménienne et qui n'a pas eu beaucoup de succès. Il a été créé en 2006. Mais ensuite, il a eu un énorme succès du fait il rejoue. Il s'est joué en 2011 et là, il est repris là, depuis la semaine dernière. Il a été nominé 4 fois au Molière. Et c'est pareil, on est en 1942 et l'action se situe dans un immeuble bourgeois où on fête un anniversaire. Alors c'est très très sympa, on danse, on rit, on chante, on parle pas de politique. Il y a parmi eux un industriel, un médecin, une veuve de guerre, un ancien combattant, un auteur, un libraire. Le ton est très léger, enjoué, puis le drame arrive. C'est que dans cette atmosphère, il y a deux coups de feu qui éclatent dans la rue. Dans cette rue à Paris, et deux soldats allemands ont été abattus. Alors aussitôt, la Gestapo fait irruption dans l'immeuble et en représailles, ils exigent deux otages dans chaque appartement. Déjà, vous voyez le terme d'otage. L'officier en charge des opérations, qui découvre que le propriétaire et son libraire attitré, lui fait une faveur, entre guillemets, il lui accorde dans un grand geste un sursis pour l'arrestation de deux otages. Otages qu'ils seront eux-mêmes chargés ils leur laissent le choix donc de se dénier eux-mêmes. Et alors là se trouve, bien sûr, la soirée vive soudain au drame, on imagine bien. Les vraies natures se révèlent devant le danger. Il y en a qui se disent, collaborateurs, lâches, égoïsme, l'opportunisme, parce qu'il faut choisir parmi eux, c'est une très très grande... C'est une très grande violence. Et l'amitié cède le pas à l'individualisme. Donc alors, certains se reconnaîtront sympathisants du régime nazi et d'autres non. D'autres qui sont fidèles à Général de Gaulle se posent comme résistants. Mais on voit un peu que chacun essaie de savoir qui mériterait le moins de vivre. C'est vraiment atroce. C'est une vraie loterie dans une tragédie humaine. Et il y aura des tentatives de fuite ou d'autres alternatives pour survivre. Alors, il y a 8 comédiens, dont un qui est magnifique, qui est Thierry Frémont, qui est vraiment, il y a toujours des rôles assez incroyables. Et c'est une pièce qui nous tient en haleine tout le long. Et donc, les critiques sont excellentes. Le public répond présent. Et le bouche à oreille fait son œuvre. Donc, c'est au Théâtre Héberteau, effectivement, le grand Héberteau, boulevard des Batignolles. Elle n'aurait pas des fauves.
Michel Lévitaillab, est-ce que vous avez une explication? Pourquoi cet engouement pour cette thématique de la collaboration, à la fois pour les metteurs en scène et aussi pour le public qui visiblement s'y déplace massivement?
Je crois qu'avec le temps, enfin, je pense qu'il faut du temps déjà pour un peu intégrer tout ce qui s'est passé. Et il y a des auteurs comme ça, et encore une fois, ce n'est pas forcément des juifs, hein, bon, ça on pourrait comprendre éventuellement. Il y a une part, c'est un peu comme des historiens, si vous voulez, c'est des auteurs, des metteurs en scène, qui se saisissent de ces textes. C'est pas récent, mais enfin, oui, c'est peut-être pas depuis les 10 dernières années. Moi, l'expliquer, je ne sais pas, mais je pense que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, et heureusement. Et je pense qu'il y a des auteurs qui sont particulièrement doués aussi pour écrire ces pièces et les montrer, les monter. Après, c'est tout un travail d'adaptation, de distribution et tout ça, mais moi, j'ai découvert des choses extraordinaires. Vraiment, c'est...
Alors, il y a d'autres choses extraordinaires.
Oui.
On passe dans un autre registre, peut-être plus littéraire, avec des grands écrivains de la littérature française aux origines juives.
Voilà.
Il y a par exemple La liberté à tout prix de Kessel au Théâtre de la Bruyère. Et vous nous parlerez après de La promesse de l'aube, d'après Romain Gary, donc au Théâtre de la Contrescarpe.
Voilà. Alors ça aussi, c'est une reprise, un immense succès dans La liberté à tout prix de Kessel. C'est joué au Théâtre de la Rive-Gauche. Il est maintenant à la Bruyère uniquement les lundis, parce qu'il faut dire que l'auteur, enfin l'interprète, je vous avoue, c'est mon grand chéri, je l'adore, c'est Franck Desmet qui a joué, entre autres, hein. Il prend toujours des personnages forts, comme il a incarné déjà le personnage de Stéphane Zweig, Freud, Romain Gary. Actuellement, il joue aussi Saint-Exupéry au Lucernaire et La liberté à tout prix. C'est donc c'est d'après les textes de Kessel, de Joseph Kessel. C'est en fait un portrait vraiment flamboyant de Kessel, qui est écrivain, explorateur, aventurier, qui a traversé le XXe siècle. Et il retrace tous ses voyages, ses reportages aux quatre coins du monde. Alors, il a été en même temps que l'observateur explorateur du monde et de la nature humaine. Donc, ces extraits-là sont vraiment magnifiques. Il faut dire que ça a été écrit à partir de Kessel, mais l'auteur et le metteur en scène s'appellent Mathieu Ranon, et donc Franck Desmet qui l'interprète. Et là, on y retrouve toute sa ferveur, sa curiosité, ses engagements pour atteindre la liberté à tout prix. Donc, c'est vraiment une extraordinaire prestation. Il est seul sur scène, il joue tous les rôles. On parle beaucoup de son action dans l'armée, ses voyages en Afrique. Enfin, c'est extraordinaire, une mise en scène assez épurée, mais quand même assez, où l'auteur, le metteur en scène se déploie vraiment à travers des grands voiles sur scène. Et c'est vraiment un hommage vibrant à un homme libre, et ça fait du bien beaucoup en ce moment.
Donc au Théâtre de la Bruyère.
Voilà,
au Théâtre La Bruyère.
La Bruyère, les lundis à 19h, donc ça a commencé il y a 15 jours. Et effectivement, alors il y a une autre pièce qui est liée, donc qui est le grand Romain Gary, La promesse de l'aube, je dirais La promesse d'une mère, comme il a été dit. Donc ça, c'est une scène théâtrale où le texte La promesse de l'aube, c'est un hymne à la mère, cette mère qui a été si présente pour le jeune Romain Gary.
C'est un de mes livres préférés.
Oui, moi aussi. On en a même fait des lectures. Mm-hmm. Et c'est cette phrase très connue, « Avec l'amour maternel, la vie nous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais ». Et ça, c'est vraiment extraordinaire, toujours, qui a été joué par Franck Desmet, mais maintenant c'est joué par une autre compagnie. Donc, il est né à Vilnius en 1914. Son véritable nom, c'est Romain Kassev. Il revisite son passé, son exil vers la France, son déracinement, son installation à Nice et son acharnement à devenir quelqu'un, sa relation complexe aussi avec les femmes et surtout sa relation avec cette mère passionnée et possessive et dévorée par une ambition démesurée pour son fils, qu'elle rêvait de futur président de la République. Il y a eu un film d'ailleurs joué par Charlotte Gainsbourg.
Oui.
Voilà. Et alors il entama, comme on sait, une brillante carrière de diplomate. Il s'engage dans les forces aériennes françaises libres. Il produira une œuvre considérable et qui intégrera la prestigieuse collection de la Pléiade. Et il faut rappeler qu'il se suicidera en 1966. Donc là, c'est adapté, mis en scène et interprété par Tigrane, alors le nom est un peu compliqué, Mekhitaryan, et ça se joue du 2 octobre au 11 janvier au Théâtre de la Contrescarpe à Paris, dans le 5e. Donc c'est un classique, comme vous dites, mais on ne s'en lasse pas.
Et Dolorès, alors ?
Alors Dolorès,
au Théâtre La Bruyère.
C'est une merveille, c'est toujours au Théâtre de La Bruyère. Dolorès, c'est partir d'une histoire vraie. Alors au début, on est étonné. C'est l'histoire d'un frère et une sœur qui s'appellent Sylvine, le garçon, et Maria Rubinstein. Et c'est un couple vedette qui est dans des numéros de flamenco. Ils sont extrêmement connus. Ils rencontrent un énorme succès dans les cabarets des années 30. Leur renommée devient quasi internationale. Il y a des belles scènes de tango, de flamenco sur scène. Et le metteur, pas le metteur en scène, l'interprète, c'est Olivier Citru, qui est extraordinaire, parce qu'on le voit déjà assez âgé, et qui raconte en fait toute son histoire de vie à un patron de bar, un patron de cabaret. Et là, son ascension va être vite brisée par la montée du nazisme. Ils seront obligés de fuir sans cesse. Ils changent de ville, de pays, d'identité. Ils se lient d'amitié avec un Allemand qui s'est attaché à Sylvain, ce danseur. Et là, on découvre comment un homme et une femme, sa sœur, qui ne vivaient que pour la danse, va devenir un résistant et accomplir une vengeance aussi impitoyable que spectaculaire. Je ne vous dirai pas laquelle, mais c'est fantastique, surtout qu'on voit que c'est une histoire vraie. Et c'est écrit par Stéphane Laporte et Yann Guillon, et mis en scène par Virginie Lemoine, qu'on connaît. Et donc, il y a six personnages, donc deux, trois danseurs, et Olivier Citruc, vraiment... mention spéciale, il est extraordinaire. Voilà. On va dire.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwarz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Michel Lévy-Taïeb, qui nous parle de l'actualité théâtrale. Il y a une pièce aussi dont on ne peut pas ne pas parler, c'est Le village de l'Allemand, voilà, qui est adapté du roman de Bolène Saint-Salle, oui, au Théâtre des Gémeaux parisiens. Et là encore, on touche à la mémoire, mais sous l'angle complexe des héritages croisés. Comment ce texte résonne-t-il aujourd'hui ?
D'abord, c'est le premier texte de Bolène Saint-Salle, qui, on le rappelle, croupit toujours dans les prisons en Algérie. Cette pièce a commencé à jouer la semaine dernière. Il y avait 170 personnes avec tout le comité de soutien, avec Antoine Gallimard. Et donc, c'est la première pièce de Bolène Saint-Salle par une équipe magnifique de jeunes comédiens. En fait, il retrace la vie des deux frères Schiller, donc ils sont nés de père allemand et de mère algérienne, et qui suivent des chemins tout à fait opposés. Donc ces deux frères, il se passe des choses incroyables. Le père, qui était un ancien nazi, on le découvre au fur et à mesure de la pièce, qui a été commandant des camps de concentration et qui a fui en Algérie dans un tout petit village, et il jouit d'une véritable vénération de la part du peuple des villageois, et il sera assassiné pendant la décennie noire en Algérie. Et le Benjamin donc apprend par le journal de l'aîné le son passé de leur père. Ils ne savaient pas, absolument pas, vu qu'ils avaient il y avait une aura autour de ce couple, donc la mère algérienne et le père allemand. Et c'est terrible parce qu'on voit en parallèle l'histoire des deux frères qui ne sont pas du tout du même bord ni du même. Et qui se retrouvent, malheureusement, je ne veux pas raconter un peu la suite, mais c'est extraordinaire parce qu'on voit déjà, on sent déjà ce que Bolène Saint-Salle. La révolte de Bolène Saint-Salle envers d'abord les mouvements islamistes, ensuite on le voit contre l'antisémitisme, et déjà on sent vraiment dans le livre qui a eu plusieurs prix, hein, ce livre, je ne me rappelle plus lequel, mais il a eu plusieurs prix. Et cette équipe, elle porte sur la transmission, donc sur une exploration de l'identité, de la mémoire et des héritages familiaux, comment ça se transmet, comment ça se passe. Il est fantastique, il vient de commencer, donc vous pouvez aller le voir au Théâtre des Gémeaux parisiens dans le 20e.
Alors avec toutes ces pièces dont vous nous avez parlé, on a envie évidemment d'y aller, mais elles semblent toutes très sérieuses. Est-ce que c'est dans l'air du temps ?
Oui, je pense. Déjà, je dois vous dire, Sandrine, j'aime pas trop les théâtres de boulevard, je vais jamais. Moi, j'aime bien, en rigolant, j'aime bien les théâtres prises de tête.
Oui.
Mais quand je dis ça, c'est vraiment, au contraire, c'est un compliment. C'est-à-dire qui donne à réfléchir, qui c'est pas des choses comme ça un peu
futiles.
Mais,
oui.
Mais en même temps, quand dans toutes les pièces, il y a un peu d'humour. Hein, c'est ce que disait Eric Feldman. Et il se trouve que, je vais pas en parler, mais ce soir, je vais voir la pièce Jérusalem qui va peut-être faire polémique, je ne sais pas. Donc, peut-être qu'on en parlera une autre
fois. De qui voilà. Et elle
alors,
se joue.
C'est Saïdi, c'est un. Je crois qu'il est libanais. Et c'est la rencontre entre. Seule chose que j'ai vue, comme je vous dis, je ne lis pas le dossier de presse.
Oui.
J'y vais ce soir. C'est la rencontre entre un Palestinien qui doit vendre sa maison et une femme canadienne qui vient, qui achète cette maison. Et donc, il se retrouve avec. tous les épisodes, toutes les tentatives de paix qu'il y a eu, toutes les époques. Donc, je ne peux rien dire dessus. On verra. La surprise.
Est-ce que ces pièces sont destinées à tout public, aux adolescents?
Ados, oui. Pas enfants, quand même. Parce que c'est d'abord, c'est une époque très difficile, très, très violente. Et puis, il faut comprendre aussi les enjeux, surtout quand il y a... la collaboration, les nazis, tout ça, la Gestapo. Je pense adolescents, oui, vous pensez à vos enfants.
On a vraiment tout public. Et puis je voulais introduire aussi une autre partie, une autre facette de votre actualité, puisque vous parlez du théâtre, mais vous le vivez aussi et vous organisez. Vous êtes responsable de la programmation à l'Écuge, de Petit Monde à l'Écuge, des spectacles pour enfants. Comment vous avez eu cette idée? Comment vous les concevez? Racontez-nous.
D'accord. Bon, déjà, c'est Gadib Guy, le directeur de l'Écu. J'étais déjà bénévole, ça fait 4-5 ans que je suis bénévole. Je suis à la retraite depuis peu, donc il faut que je m'active. J'adore l'Écu, j'aime beaucoup ce qu'ils font, leur esprit, enfin bon. Et il m'a proposé ça, il m'avait dit, il faut qu'on donne la place un peu aux enfants. Il y a de tout, il y a le jazz, il y a la musique classique, il y a les BD, il y a tout à l'Écu. Mais bon, il y avait ce... Alors, moi, je ne connais pas grand-chose au niveau du théâtre pour enfants. J'ai dû aller avec mon fils quelques fois. J'étais étonnée lors de ces spectacles qu'il y ait des adultes qui viennent sans enfants. Il y en a pas mal, d'ailleurs. C'est intéressant. Et donc, j'ai prospecté et j'ai découvert un univers incroyable. Donc, ça fait 4 ans qu'il y a 6 spectacles pour enfants. On délimite bien les âges, c'est-à-dire ça peut être des marionnettes à partir de 4 ans jusqu'à 8-10 ans. Au-delà de 10 ans, je ne crois pas que les jeunes veulent venir. Donc, c'est vraiment cette tranche entre 4 ans et 10-12 ans. Et je n'ai pas en tête tous les spectacles, mais je découvre
pense que,
vraiment...
Oui, on peut aller sur le site de l'Écuge, www.écuge.fr, et on découvre la liste.
L'idée, c'est de faire correspondre quand même les fêtes juives. Donc, chaque fois, il y a une pièce sur Hanouka, sur Pessah, sur... quelle autre fête nous avons?
Pourim.
Pourim, bien sûr. On a, alors, tous les ans, on fait quelque chose par rapport aux fêtes de nom. Il y a Cécile Cohen-Fahry, il y a Mireille Rosen, que vous devez connaître aussi, qui fait plus des spectacles pour enfants avec une partie chantée en yiddish. Il y a, pour le monde séfarade, il y avait... je ne me rappelle plus.
En tout cas, c'est vraiment un programme de qualité.
Voilà, tout à fait.
Et n'hésitez pas à y aller avec vos enfants. Et en plus, pour les enfants, c'est gratuit.
Oui,
et c'est uniquement payant pour les adultes.
C'est dimanche par mois à 16h. Et c'est, après, il y a un petit goûter. Et c'est gratuit pour les enfants. Et selon l'adhésion ou pas, c'est 10 ou 15 euros. C'est vraiment... tout à fait abordable.
Alors, on a parlé d'un certain nombre de pièces de théâtre, de créations. Est-ce que vous avez un coup de cœur pour l'une d'elles? Voilà. Si on devait aller uniquement à une représentation, ce serait laquelle? Ou est-ce que ce n'est pas possible de choisir?
Oui, non, c'est possible. Parce que je vais vous dire Marchand d'étoiles, Repas des fauves, La promesse de l'aube, je les ai déjà vues. Et c'est quand même la pièce de Feldman qui fait beaucoup de gens y vont maintenant. La plupart de mes amis, je leur ai dit « allez-y ». C'est étonnant, cette forme. Il a beaucoup travaillé avec son complice. Là, il est seul sur scène. Et c'est étonnant parce qu'en même temps, ça a l'air d'être léger, mais il dit des choses très, très fortes sur la guerre. Et en même temps, cette histoire de Freud et d'Hitler, j'ai trouvé ça génial, quoi. Ça porte pas tous, la pièce ne porte pas là-dessus, mais c'est quand même, c'est vrai que le monde aurait changé si Freud avait analysé Hitler.
Alors on redonne le titre, ne jouait pas la pétanque au ghetto de Varsovie, c'est déjà tout un programme d'Eric Feldman au théâtre du Petit Saint-Martin. Peut-être la dernière question, est-ce que vous pensez que le théâtre a un rôle à jouer aujourd'hui pour donner à réfléchir, pour développer une conscience citoyenne, peut-être pour lutter contre l'antisémitisme ou l'antisionisme tout simplement?
Complètement. Ah oui, totalement. C'est vraiment... il y a des messages, sans que ça soit... c'est pas des discours politiques ou quoi, mais c'est des messages. Mais il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'il faut que ça soit ludique quand même. Parce que moi, j'ai déjà vu des théâtres militants. c'est dur. Donc il faut quand même qu'il y ait cette dimension d'abord professionnelle, ludique, de la gestuelle, d'une mise en scène et tout ça. Mais tout à fait, ça remet beaucoup en question les choses, ça rappelle beaucoup d'éléments historiques. Moi j'aime beaucoup les pièces historiques. Elles sont pas du tout barbantes comme on peut éventuellement imaginer. On apprend des tas de choses et toujours cette histoire de l'individuel qui s'inscrit dans l'universel, dans la grande histoire. Donc moi je pense que tout à fait, oui, c'est la preuve. Hein, voilà, déjà, on commence à peine l'année, il y a déjà 6 pièces de théâtre.
C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Michel Elitayeb.
C'est très plaisir d'être.
Vous nous avez donné, voilà, vous nous avez fait gagner du temps et en sélectionnant ces pièces qui montrent comment le théâtre demeure toujours un lieu de mémoire, de transmission, mais aussi de résistance et de dialogue. Et puis surtout un lieu d'évasion. On a besoin en ce moment de se changer les idées. Eh bien, on va se retrouver régulièrement, si vous en êtes d'accord. Avant chaque saison, vous nous présenterez les pièces.
Il y a des nouvelles pièces, avec plaisir Sandrine.
Vraiment, eh bien merci infiniment et puis à très bientôt.
À très bientôt, merci beaucoup, au revoir.